Deuxième partie de la programmation culturelle du Théâtre de la Passerelle avec Philippe Ariagno. Philippe, prochain spectacle de cette année en janvier, c'est lequel ?
Alors, c'est un rendez-vous jeune public tout public. Alors, quand on dit jeune public, ça s'adresse, ce spectacle-là, en tous les cas, Manche Théronce, qui sera joué à l'usine Badin d'une durée de 50 minutes, s'adresse à des enfants à partir de 5 ans. Mais tous les spectacles jeunes publics qui sont choisis dans la saison sont des spectacles qui s'adressent aussi aux adultes par la qualité artistique, par ce que ça raconte, etc. Même les adultes prennent un plus grand bonheur. Donc, c'est aussi des spectacles à voir, évidemment, en famille. Et donc, ça s'appelle Manche tes ronces, de la metteur en scène Mana de Pau, qui raconte l'histoire de Léopold, qui va chez sa grand-mère, sa mamie ronce, qui n'aime pas du tout les enfants. Donc, évidemment, Léopold a beaucoup de crainte d'aller chez cette mamie-là. Et mamie ronce, elle ne sait pas ce qu'elle va faire de son petit-fils. Mais évidemment, bon, c'est du théâtre d'ombre, hein, c'est des marionnettes manipulées, des projections du théâtre d'ombre absolument magnifiques, de deux comédiennes qui sont et manipulatrices qui, avec des rétroprojecteurs, des projections, racontent cette histoire assez incroyable. Bon, évidemment, ça se finit bien, donc c'est un théâtre d'ombre très délicat, assez magique. Et donc, on commence à ça, on sera dans une grande proximité à Badin. Voilà, c'est un très beau rendez-vous d'une belle équipe. En tous les cas, on est ravis de montrer ce spectacle qui a non seulement dans son histoire, mais aussi une dimension évidemment plastique, de fait que ce soit du théâtre d'ombre, des choses découpées. Enfin, c'est assez absolument hallucinant. Quand je dis théâtre d'ombre, on pourrait dire c'est du noir et blanc, mais oui, sauf qu'il y a aussi de la couleur. Bon, enfin, c'est assez un petit bijou plastique et scénographique, vraiment pour tous les âges.
Il a été créé en 2013, il me semble, par plusieurs artistes. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels ?
Alors, c'est les illustrations Sepia, c'est qui a fait donc les illustrations. Elle s'appelle Théodora Ramkeers, qui parsème toute cette histoire du théâtre d'ombre par des couleurs assez vives. Hein. Et puis Mana de Pau, qui est la metteuse en scène, on va dire, hein, et qui met en scène cette histoire. Hein, voilà, metteur en scène. Une histoire se raconte que s'il y a une mise en scène qui nous permet de suivre cette histoire le mieux possible.
Est-ce qu'il y a de la musique également ?
Oh bah, il y a toujours de la musique, oui, évidemment. Bah, je ne sais pas s'il y a de la musique, c'est pas en direct en tous les cas, mais il y a de la musique, évidemment, sur le spectacle, comme la plupart des spectacles qui rythment cette petite merveille d'élégance pour les enfants, pour les petits et les grands.
Et il me semble que c'est un spectacle belge. Comment l'avez-vous découvert ?
Oh bah, vous savez, la Belgique, c'est pas très loin. Et puis voilà, on voit des spectacles un peu partout. Donc je sais pas, c'est Sonia, mon adjointe, qui l'a vu. Donc elle a dû le voir à Paris, hein, puisque ça tourne un peu. Donc voilà, quand on voit des spectacles, on fouille beaucoup, hein, évidemment. Donc on peut aller aussi en Belgique. Mais il se trouve que là, on l'a pas vu en Belgique, on l'a vu en France. Et puis voilà, quand on voit un spectacle qui réunit à la fois des comédiennes manipulatrices incroyables, une belle histoire, une dimension plastique étonnante, qu'en même temps il y a de la musique, il y a des bruitages, etc. Voilà, une richesse très 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 forte. Et d'ailleurs, dans la saison, on a pas mal de compagnies belges. Donc voilà, on aime bien la création belge, on aime bien l'autodérision qu'il peut y avoir, on aime bien la virtuosité que peuvent avoir les Belges. Donc voilà, c'est bien de découvrir cette création belge.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas, où se trouve l'usine Badin ?
Alors, l'usine Badin, c'est vers le attendez, l'adresse exacte, service technique du département, après la voie de chemin de fer, en allant, sur l'adresse exacte, je l'ai pas en tête, pardon, mais je crois que maintenant c'est assez bien identifié, en tous les cas, c'est vers la direction technique du département, juste derrière la gare.
Bien, on rappelle que c'est les 23 et 24 janvier à 18h à l'usine Badin de Gap. On passe au spectacle suivant. Il me semble que c'est une chanteuse de jazz.
Eh ben oui, elle est belge aussi. Par exemple, Mélanie de Biasio, voilà, avec son nouvel album qui s'appelle Lilies. Bon, c'est pour nous, en tous les cas, un très grand rendez-vous. Vraiment, d'ailleurs, je crois qu'il reste très très peu de place. Ceux qui nous écoutent, voilà. Il reste quelques places, j'imagine, mais bon, venez voir cette incroyable chanteuse Mélanie de Biasio. Ça fait quelques années qu'on essaie de la faire venir, et puis un producteur anglais s'en était emparé, donc il avait supprimé toutes les petites villes et ne gardant que les grandes capitales européennes, etc. Donc on l'a. C'est aujourd'hui Mélanie de Biasio, c'est une des plus grandes, plus belles voix, en tous les cas, des voix les plus singulières du jazz vocal européen. Elle sera entourée d'un pianiste, un contrebassiste et un batteur. Et comment vous décrire ça ? C'est quelqu'un de très très habité, qui ne fait jamais le même concert, qui fait un concert en fonction de l'humeur, de ce qu'elle ressent dans la salle, etc. Donc ça peut partir dans des choses assez profondes, assez perchées, on va dire. Mais et c'est un jazz d'une voix complètement envoûtante, très hypnotique, et qui est beaucoup dans une gestuelle très délicate. Voilà, on part vraiment dans un voilà, c'est un jazz absolument, moi je dis assez hypnotique. Et puis la voix de Mélanie de Biasio résonne assez longtemps en nous après l'avoir entendue. Donc on est ravi de pouvoir enfin la recevoir à Gap, et on sait que ça va être un envoûtement absolument magique de cette très très belle personne. On a eu des échos des concerts qui se passent en France dans d'autres théâtres, d'autres scènes nationales, et les retours sont dithyrambiques. Hein. Elle, non seulement elle est chanteuse, mais aussi elle joue de la flûte traversière. Donc voilà, c'est une ambiance, c'est un voyage total qui est accompagné d'une gestuelle, vraiment d'une élégance, d'une finesse. Voilà, ça va être un moment extrêmement rare que ce concert de Mélanie de Biasio.
Et elle a été, il me semble, influencée par Nirvana, Jeff Buckley, Portishead. Est-ce que son spectacle vous fait penser à un artiste jazz qu'on pourrait reconnaître, identifier?
Ouais, alors c'est vrai qu'elle a une influence assez rock, mais bon, Tichède un petit peu, mais aussi peut-être Coltrane, c'est vraiment du jazz, John Coltrane, voilà, c'est une espèce de douceur, en même temps, ça swing vraiment, quoi. Il y a un morceau qui s'appelle Blackened Cities, qui est absolument somptueux, enfin, tous ces morceaux sont absolument géniaux, donc voilà. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui aiment le jazz, et un jazz vraiment dans une grande, grande singularité, vont se régaler.
Et nous avons des places à vous faire gagner pour ce spectacle. Ce sera le 25 janvier au théâtre La Passerelle à 20h30.
À 20h30, exactement. Voilà. À ne pas manquer, c'est une personne rare, une chanteuse très très rare.
Bien, le spectacle d'après s'intitule Going Home.
Going Home, ouais, vous parlez mieux anglais que moi. Voilà, un texte mis en scène de Vincent Hennebeek, qui est suisse. Et alors là, c'est une particularité, je vous raconte un petit peu l'histoire, mais avant ça, je voulais vous dire, ça fait partie des allers-retours que nous faisons avec le Théâtre Durance, où chaque saison maintenant, il y a deux spectacles qui sont choisis en aller-retour. Donc un spectacle qui est dans notre plaquette, mais qui est joué au Théâtre Durance, c'est le cas de Going Home, donc qui fait partie des abonnements, mais qui est joué au Théâtre Durance. Et puis on a eu le gros abordage l'année dernière, hein, à l'automne, une compagnie de cirque, avec un aller-retour des gens qui sont dans les abonnements du Théâtre Durance, mais qui est joué à Gap. Donc voilà, c'est une façon de faire circuler sur le territoire... sur les territoires, les publics, et puis effectivement de pouvoir se voir d'autres esthétiques, d'autres choses, puisque le projet artistique sont assez différents et assez complémentaires. Et Going Home de Vincent Hennebeek, c'est un spectacle qu'on a vu à Avignon l'année dernière, qui est une espèce de l'histoire d'une migration à l'envers, d'un jeune Africain adopté par une famille autrichienne et qui ne se sent pas très très bien en Autriche, qui va commencer un peu à déprimer, à dépérir un petit peu, qui va faire des bêtises, qui va faire un casse, etc. Donc il doit être il doit partir. C'est très compliqué pour lui, l'insertion. Il vit un racisme ordinaire. Donc je raccourcis, mais à un moment donné, à force de déboire, il va repartir chez lui. Donc il repart en Afrique. En fait, il a voilà, en tout cas son pays d'origine, hein, puisqu'il il avait été adopté, et il va construire de magnifiques choses dans son pays d'origine. Enfin, ça va devenir quelqu'un de très important, etc. Et il revient quand même un monde en Europe, et évidemment la justice le poursuit, il est arrêté, etc. Et je veux pas raconter la fin, mais en fait c'est un espèce de conte de fées assez incroyable d'une migration à l'envers, qui est pas vraiment une migration, mais qui est en tout cas un retour sur un pays d'origine, puis un retour en Europe qui finit bien, on va dire, enfin en tous les cas qui est assez magique, et c'est une histoire vraie. Donc c'est interprété par un comédien absolument magnifique, Dorcy Rugamba, et il y a des musiciens sur le plateau en direct. Donc voilà, c'est une très très belle histoire humaine, on va dire, et un parcours humain étonnant. On aimerait bien que les migrations se passent toujours de cette façon, même si évidemment dans cette histoire qu'on nous raconte, il y a des phases extrêmement délicates et difficiles. Bah, quand on est au bout du rouleau, les gens sont souvent désespérés, commettent des fois des choses qu'il regrette sûrement par la suite, mais qu'on n'a pas de choix. Donc voilà, ça met un... Je trouve que c'est l'histoire d'un homme déraciné, victime du racisme ordinaire, qui est obligé de fuir. Ça parle en ce moment. Je trouve qu'il y a un écho assez intéressant avec l'actualité.
Avec les migrants, évidemment. Alors ça se passera le 30 janvier à 21h au Théâtre Durance, du coup.
Voilà.
Château Arnoux.
C'est une navette qui amène les spectateurs. Donc je crois qu'il y a plus de 100 personnes qui vont se déplacer de Gap. Donc ces allers-retours marchent très bien. On est ravis puisque voilà, ça c'est la raison, au-delà de l'idée de faire circuler les publics, les plateaux. On va dire, les scènes, les salles ne sont pas pareilles, donc sont complémentaires. Il y a des spectacles qui peuvent être joués dans une plus grande proximité au Théâtre du Rance, mais qui nécessitent quand même un grand plateau, qui ne peuvent pas être joués en côté court chez nous, puisque c'est encore un petit peu trop petit, et qui ne peuvent pas jouer sur le grand plateau, parce que ça se perd à un moment donné, qu'il y a la proximité nécessaire avec le public. Donc quand on a envie de faire les mêmes choses, ben, on regarde un peu si techniquement, quelle est la salle qui correspondra le mieux. Il se trouve que Going Home, évidemment, c'est le Théâtre du Rance, et puis nous, on a eu le gros abordage qui était là, un gros plateau cirque qui ne pouvait pas être joué à Durand, donc c'est plutôt intéressant. On est très ravis de ça, et en fait les gens suivent beaucoup, donc c'est parfait.
C'est intéressant de travailler en complémentarité entre deux théâtres comme ça. Ça fait longtemps.
Bah, je trouve que c'est une notion de territoire qui est intéressante, puisque nous on ne revendique pas d'avoir tout, on n'apporte pas tout aux gens, à tout le monde, c'est impossible hein, de satisfaire tout le monde. Donc il y a un théâtre qui est pas si loin, hein, 85 km, qui a pas mal de choses musicales, peut-être plus musicales que nous, et puis qui a des formes, qui a un plateau tellement différent qu'en fait, ça, voilà, nous on ne peut pas le faire, elle peut le faire, donc il y a des choses que nous on ne mettra jamais à Gap, mais qui sont pas loin, donc on profite de cette opportunité, et je crois qu'elle fait de la même façon, et on sent que ça monte en puissance, donc les gens ont repéré, et puis voilà, on les amène, on les ramène, donc il y a un petit confort aussi, voilà, puis c'est sympa, c'est convivial.
Évidemment. The Big Wig, c'est du jazz également, mais plutôt explosif.
Ah oui, alors ça c'est un grand rendez-vous, d'ailleurs les spectateurs de la passerelle ne s'y sont pas trompés, puisque la salle je crois est archi pleine. Bon, quand je dis ça, je le dis toujours, je le répète toujours, il reste toujours des places, il y a toujours des désistements, donc venez voir The Big Week, qui est une chose absolument extraordinaire. J'essaie de vous expliquer pourquoi. En fait, c'est l'alliance de deux choses, d'un sextet de jazz suisse-allemand qui s'appelle Hildegard Lernfliegen, d'un monsieur extraordinaire qui s'appelle Andreas Scharrer. Alors, il n'est pas connu du grand public, mais c'est un espèce d'homme orchestre qui est capable de tout, qui fait du beatbox, qui imite le bruit de la trompette avec les lèvres. Enfin, c'est quelque chose incroyable, il est explosif, c'est un espèce de jazz cabaret, très coloré, très imagé. Lui, il a une dimension physique, une présence sur le plateau énorme, avec un sextet, avec cet humour décalé, suisse-allemand, enfin, ça pourrait être très cabaret berlinois aussi, un peu, voilà, c'est assez surréaliste. J'ai pu le voir il y a quelques années en concert dans une petite salle, le sextet tout seul, et je voulais inviter ce sextet qui est intouchable, qui tourne beaucoup, qui est partout, là. Et là, on les a dans une proposition un peu spécifique, puisqu'ils seront avec l'Orchestre Régional de Cannes. Donc, il y aura à peu près 58 musiciens sur le plateau qui joueront les musiques d'Andreas Scharrer. Mais voilà, ça va être un moment complètement... Alors, moi, je ne l'ai même pas vu dans cette configuration-là, mais le sextet plus l'Orchestre Régional de Cannes dans une dimension musicale comme ça, ça va être quelque chose d'absolument époustouflant. Donc, ne ratez pas. Andreas Scharrer est un monsieur qui a travaillé beaucoup avec Bobby McFerrin, qui était aussi qui a travaillé sur la voix, l'expression corporelle, etc. Enfin, bon, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, ça va être, c'est une vraie curiosité musicale. Les gens, ils sont bourrés de talent. Donc je pense que ça va coller, comme nous, on a une expression, on dit ça va coller les gens au plafond, c'est clair. On va en prendre plein les oreilles, plein les yeux. Et voilà, c'est un très très beau rendez-vous qu'on propose dans cette saison. Donc voilà, il ne faut pas rater The Big Wig. Et ça sera le 3 février à 20h30.
Le rendez-vous est pris, en tout cas pour ma part.
Oui, non, ne le ratez pas.
Alors la suite, ça se passe aussi à l'usine Badin, conférence de choses. Il y a plusieurs dates, Philippe.
Oui, alors conférence de choses. Alors c'est effectivement à l'usine Badin, donc je répète chaque fois qu'on est à l'usine Badin, c'est parce que c'est des spectacles qui ont des petites formes. Quand on dit petites formes, c'est pas des petits spectacles genre c'est moins bien que dans la grande salle, c'est souvent des petits bijoux au contraire, mais qui nécessitent une vraie proximité avec le public. On est à quelques mètres de l'acteur qui s'appelle Pierre Misfud, qui est aussi suisse aussi, et qui, on va dire, la conférence de choses, c'est absolument étonnant. C'est une série, en fait, de... Je crois qu'il y a 8 conférences au total, d'une durée exacte de 53 minutes et 33 secondes. Donc nous, on aura 5 conférences sur les 8 ou 9. Et comment ça se passe ? Pierre Misfud, il part des liens de Wikipédia, donc c'est une espèce de digression wikipédiesque, comme on l'a appelé. Et donc, c'est une espèce de monologue absolument incroyable de ce Pierre, de cet acteur qui est drôle, en plus qui a une tête tout à fait un peu assez clownesque finalement, et qui de lien Wikipédia en lien Wikipédia passe du coq à l'âne en permanence en étant, on va dire, en surfant sur l'immense toile de base de données qui est Internet. Donc ça donne évidemment des quiproquos incroyables, c'est très très drôle, et puis c'est aussi une plongée assez vertigineuse par les mots, à travers la connaissance et tout ce qu'on peut attraper comme information sur la toile. Et voilà, c'est assez vertigineux. C'est assez vertigineux. Et vraiment, il fait 53 minutes, 33 secondes. Il s'arrête exactement à ce temps-là. Et la conférence d'après reprend à peu près où il en était. Et ce pendant 9 conférences. Donc, nous, on en aura 5. Donc, voilà, c'est un espèce de phénomène, un acteur incroyable, phénomène. C'est extrêmement jouissif, drôle, et puis en même temps, non seulement on se divertit, mais en plus on apprend plein de choses, évidemment, quoi. Donc, mais c'est toujours avec un décalage, avec un peu d'humour, donc voilà, c'est une belle... je pense que les gens qui vont voir une première conférence vont très très vite avoir envie d'en voir une deuxième, voire une troisième, voire les cinq, et ils vont succomber en tous les cas à l'intelligence pétillante et de ces causeries finalement assez drôles, voilà, qui nous... qui est une espèce d'ivresse obsessionnelle sur la connaissance et les mots et les digressions en tout genre.
Parce qu'en fait, il y a 5 dates, 1, 2, 3, 4, non, 4, 4 dates, c'est voilà. Pas la même conférence du tout.
Il s'arrête à un endroit et il reprend la suite exactement où il l'a laissé. Et c'est la digression qui devient absolument virtuose, hein, voilà. Alors, il y a autant d'improvisation que des choses écrites. C'est vraiment lui qui... c'est un mélange, en tous les cas, de choses écrites et de choses moins écrites. Mais voilà, c'est un phénomène, Pierre Misfud. Il faut le voir, c'est étonnant. Voilà. Et puis, comme vous l'avez bien compris, c'est l'alliance d'un monsieur qui s'appelle François Grémaud, qui a au départ une conception, qui a écrit le spectacle, et Pierre Misfud, qui est donc l'acteur, qui est vraiment... qui pourrait avoir la tête d'un conférencier, donc on se demande quand il arrive ce à quoi on va avoir droit, et très très vite il nous embarque immédiatement dans les mots et dans cette immensité de la connaissance. Voilà, donc c'est une petite chose extrêmement singulière, comme beaucoup de spectacles cette saison, où chaque spectacle a une vraie singularité, ce qui fait, à notre avis et de notre point de vue, qui donne la force à cette saison 2017-2018, qui peut perturber un peu les gens, mais nous on le sait, on est sûr à 100%, voire 200%, que quand les gens se laissent aller pousser ces petites portes des choses qui leur paraissent un peu bizarres, ils vont être ravis et comblés direct. Donc voilà. Et conférence de choses, qui jouera le 6, 7, 8, 9 février à 19h, on est un bon exemple.
Et je trouve que c'est bien de varier les plaisirs, quoi. C'est pas toujours la même chose. C'est bien aussi de changer d'univers à chaque fois qu'on va voir un spectacle. Je trouve ça déroutant et intéressant. Et on passe toujours un bon moment, en fait. On est surpris, souvent.
En fait, le rôle de la passerelle, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, nous, une scène nationale a des missions très particulières. Notre mission première est de faire découvrir un maximum de gens, au plus grand nombre, la création d'aujourd'hui. Mais quand je dis la création d'aujourd'hui, c'est pas le divertissement, le mainstreaming qu'on passe à la télé, qui malheureusement et bien souvent est du pur divertissement, voilà. Mais c'est comme on suce un bonbon acidulé et après on n'a plus rien au bout de 2 jours. Nous, c'est pas tout à fait la même chose. C'est le spectacle plus marquant, c'est le cœur de la création d'aujourd'hui dans tous les domaines du spectacle vivant. Donc c'est des choses plus profondes. Enfin, il y a une vraie qualité artistique. C'est réellement ce qui fait aussi qui donne l'image d'une France culturelle. S'il y avait pas ça, on se distinguerait pas des autres. Donc nous, on est vraiment à ce cœur-là. Et ça veut pas dire prise de tête. Les gens qui nous écoutent, c'est juste à un moment donné laisser son émotion parler, le lâcher prise, et voilà, c'est quand la qualité est là, ça, ça touche tout le monde, quoi. L'émotion est au rendez-vous, ça, on n'en doute pas. Et on l'a mesuré sur plein de fois, sur des gens qui n'avaient pas l'habitude de venir, et tout d'un coup, un spectacle qui est une vraie révélation. Moi-même, je viens pas d'un milieu culturel au départ, bah, j'ai eu des révélations incroyables, des bouleversements au bon sens du terme en voyant des spectacles. Mais voilà, c'est une vraie richesse. La création en France est très, très riche. Quand je dis en France, il y a aussi une création internationale, puisqu'on parlait de Belges, de Suisses tout à l'heure, mais voilà. Ça peut être des Brésiliens, mais bon, la création mondiale, la création qui n'est pas vue à la télé, qu'on met pas de manière ostentatoire sur les écrans, est à mon avis l'essentiel de l'art et de la culture. Donc on a la chance à Gap d'avoir cette scène nationale, d'avoir encore des moyens pour travailler, d'inviter des artistes qui sont formidables.
Donc sortez de chez vous et venez à la passerelle plutôt que de regarder la télé.
Oui.
C'est plus enrichissant, on va dire.
Après voilà, on dit ça. Moi, je pense que les gens qui continuent à fréquenter les salles de théâtre sont des héros, hein, vu ce le nombre de choses qu'on leur monte en permanence, comment ils sont sollicités, etc. Maintenant, voilà, c'est. Je pense que ceux qui n'ont pas encore goûté à ça, il faut y goûter, parce que une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. On se dit, waouh, tout ce que j'ai raté pendant toutes ces années, je vais me rattraper. Et ça peut devenir assez boulimique de l'envie de tout voir, pratiquement, ce qui se passe pour beaucoup de spectateurs qui viennent à la passerelle, que ce soit en musique, en danse, en cirque, en théâtre. C'est tellement riche, c'est tellement hybride, ça se croise tellement, ça parle tellement de nous, c'est tellement en écho à nos vies que. Ben, à un moment donné, c'est comme d'aller acheter du pain, ça devient indispensable. Hein. Après, il faut s'en persuader, il faut faire l'effort, c'est clair, c'est un effort, mais une fois qu'on l'a fait, on est largement récompensé. Ça, en tout cas, c'est mon avis.
Mais je suis bien d'accord. Alors, on poursuit avec quoi ?
Alors, on poursuit avec un rendez-vous, encore une fois, très singulier d'une jeune compagnie qui s'appelle le Théâtre des Pliés, qui a réussi un coup de maître avec un spectacle qui s'appelle Le Pas de Bème, qui a été écrit et mis en scène par Adrien Béal. Donc, c'est vraiment une jeune compagnie et qui raconte l'histoire de Bème, qui est un lycéen tout à fait ordinaire, plutôt brillant, qui a aucun problème particulier, et qui tout d'un coup décide de ne plus faire ce qu'on attend de lui. Et il va, chaque interrogation, chaque examen, il va rendre une copie blanche. Il ne rend rien, il ne répond pas, il devient un peu ce grain de sable dans une machine bien huilée où on demande de faire ça, donc les élèves. Et en fait, au début, personne ne dit rien, et les professeurs, chaque fois, lui mettent la moyenne. Parce qu'il est brillant, parce qu'ils ne comprennent pas. Et donc, du coup, on se pose évidemment des questions. Puis, au bout d'un moment, ça prend tellement d'ampleur que les questions viennent, et pourquoi, etc. Et lui, il n'a jamais de réponse. Il n'apporte jamais de réponse. Il ne fait faire que poser des questions aux autres. Et donc, c'est extrêmement intéressant comme un petit geste, a priori anodin. Dans le système scolaire, c'est pas forcément anodin de rendre une copie blanche. En tout cas, il y a les gens qui peuvent être des gens identifiés comme cancre entre guillemets, ou qui ne travaille pas, etc. Et là, ça, bon, on peut identifier pourquoi, mais là c'est vraiment le contraire, c'est vraiment un acte presque de rébellion, une espèce de petit geste qui provoque évidemment d'immenses déflagrations. Donc c'est absolument intéressant. De ce spectacle est incroyable, c'est très épuré, les spectateurs sont autour des trois acteurs. Un spectacle qui pose beaucoup beaucoup de questions, et c'est plutôt comment un acte qui agit en creux de Bème, qui refuse de remplir ses copies, va provoquer d'énormes remous entre les gens, et entre les professeurs, entre les parents des élèves, entre les élèves, qui évidemment qui sort un peu de l'ordinaire. C'est un peu comment on sort de la norme, comment on se déplace, comment on se... C'est même pas un acte de rébellion, en fait. Il l'explique pas, il dit pas j'en ai marre de travailler. Vraiment, il dit rien. Il attend qu'autour de... que toutes les hypothèses, toutes les questions soient soulevées. Évidemment, il y en a beaucoup, quoi. Donc c'est un spectacle en quadrifrontal, ce que je disais. Donc les spectateurs sont autour, donc on est au cœur de ce débat-là entre professeurs, entre parents d'élèves, entre élèves. C'est étonnant.
Alors puisqu'on est... Ah oui, c'est côté cours du coup, puisqu'on est très proche du spectacle. Ça se passera quand ? En février ?
Ça sera en février, et ça serait pas vraiment... on appelle ça en côté cours, mais ça sera sur le plateau, hein, puisque on sera autour des spectateurs, donc il faut un peu d'espace quand même. Et c'est, effectivement, ça sera en février, les 20, 21, 22, à 19h. Ce spectacle a très très bien tourné, a eu un écho absolument incroyable et des publics et de la presse et des professionnels. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la singularité des propositions cette année, c'est des petits bijoux qui rentrent en écho avec nos vies absolument incroyables. On parlait de la conférence de choses il y a quelques temps, voilà, c'est pas de bême, c'est pareil, ça interroge beaucoup sur finalement qu'est-ce qu'on apprend à l'école, c'est quoi l'apprentissage, qu'est-ce qu'on transmet, est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on peut être doué en même temps de dire voilà. Enfin voilà, ça pose plein de questions et en tous les cas sur le relationnel entre les gens, c'est assez somptueux quoi.
Donc à ne pas manquer, on passe à réparer les vivants au sens figuré, j'espère.
Oui, alors voilà, c'est, on va le dire ça on le joue 3 fois, c'est dans la grande salle, on a limité un petit peu la jauge parce que voilà, pour pas que les gens soient trop loin. Alors pour nous, c'est le chef-d'œuvre de la saison. On aime toute notre saison, c'est le spectacle absolument incontournable pour ceux qui aiment le théâtre. On a pris, c'était un choc pour nous. Bon, c'est à partir du texte de Maëlys de Kerangal, l'auteur qui a écrit, donc qui s'appelle le livre qui s'appelle Réparer les vivants, le roman qui s'appelle Réparer les vivants, qui est entre nous un roman formidable qui se lit sublime et qui raconte quoi en fait, et ça va vous étonner, qui raconte l'histoire d'une transplantation cardiaque. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais en gros c'est de la mort d'un jeune homme de 20 ans jusqu'à la transplantation de ses organes, notamment de son cœur, à une personne de plus de 50 ans, une femme en l'occurrence. Qu'est-ce qui se passe de cette chaîne à partir de la mort du jeune homme jusqu'à la transplantation cardiaque? Qu'est-ce que c'est cette chaîne humaine, comment on annonce aux parents qui voient leur enfant respirer encore et qui en même temps est de toute façon il a le cerveau complètement fini, enfin il est mort cliniquement, mort cérébralement, etc. Donc comment on fait, comment les médecins le disent aux parents, comment les médecins acceptent, comment on remonte dans la vie de ces gens. Donc c'est une espèce de galerie de portraits de toute cette chaîne humaine absolument formidable de la grande histoire d'une transplantation cardiaque. C'est génial, c'est d'une force émotionnelle, l'acteur est inouï, il s'avale un texte incroyable, il est tout seul sur un tapis roulant qui recule, qui avance en permanence pour simuler cette course. Puis je crois que je ne sais plus exactement maintenant, mais c'est la transplantation d'un organe, c'est 24 heures, ils ont très très peu de temps, c'est un poil plus, etc. Donc tout ce symboliser cette course permanence, le recul, l'avancée, etc. Tout l'impact psychologique sur les gens. Et puis un musicien au-dessus d'un portique, au-dessus de ce tapis roulant, qui joue de la musique en direct. Voilà, je peux pas en dire plus, c'est juste sublime. Moi, je n'avais pas lu le livre avant de voir le spectacle. J'étais bouleversé par cette histoire qui est une espèce de... à la fois une ode à la vie, une espèce d'hommage incroyable à la médecine, au progrès de la médecine, à toute cette chaîne humaine qui entoure une transplantation cardiaque qui, évidemment, implique des sentiments extrêmement douloureux pour les uns, forts, enfin voilà. Waouh, c'est on ressort pas indemne, mais avec une force. C'est pas un truc déprimant, une transplantation cardiaque. Finalement, c'est une mort qui a, parce qu'il y a une mort, bah il y a une vie qui est sauvée aussi. Donc voilà, dans cet équilibre délicat, douloureux pour les uns, pour les autres. Mais waouh, quelle formidable leçon de théâtre et quelle formidable histoire. Et je pense que les gens qui n'auront pas lu le livre avant de voir ce spectacle vont, comme moi, avoir envie de le lire. Je vais le dévorer derrière. Et c'est une adaptation, parce que ça n'a pas été facile. Il y a eu deux adaptations de ce roman. On a vu les deux. Celle-là est absolument formidable. Je ne peux pas y en imaginer une autre. Donc voilà, on l'a vraiment souligné comme un chef-d'œuvre cette année. Donc bon, les gens, s'ils ne sont pas trompés, d'ailleurs, ils seront là. Sûrement très nombreux, il doit rester quelques places, voilà. Mais quelle finesse, quel théâtre et quel acteur. Il s'appelle Vincent Dicèze, le musicien s'appelle Joachim Latarget, et voilà, un texte comme celui-là déjà qui est très très fort, très très bien écrit et qui est servi par un acteur absolument formidable, bah voilà, boum, c'est une grande claque quoi, mais dans tous les sens du terme, mais c'est un bonheur, voilà.
Et est-ce que l'auteur a participé à la mise en scène ou pas du tout?
Non, non, non. Je crois qu'elle a vu le spectacle derrière. Non, non. Il peut y avoir des collaborations entre les auteurs et les metteurs en scène. Je pense qu'il peut y avoir de temps en temps des allers-retours. Mais après, écrire et mettre en scène, c'est vraiment deux métiers différents. Donc peut-être que l'auteur peut avoir envie de dire, ou en tout cas, peut ne pas aimer l'adaptation, en disant ouais, bon, t'as raté l'essentiel, etc. Mais là, il n'y a pas eu trop de travail entre l'auteur et Sylvain Maurice, donc le metteur en scène, mais je pense qu'ils ont dû se parler à un moment donné. Et de toute façon, il y a des questions de droit aussi, donc à un moment donné, ça échange et le projet est exposé. Mais
Waouh, quelle claque. À ne pas manquer, vraiment.
Et à ne pas manquer les 12, 13 et 14 mars à 20h30.
Voilà, on a fait trois représentations. C'est assez lourd quand même, même si c'est deux personnes sur le plateau. On s'est dit, même au départ, on dit, mais il faudrait en faire 10. Parce qu'il va y avoir un tel bouche à oreille, c'est les gens qui vont le voir le premier soir. Je pense qu'ils peuvent avoir envie de le revoir. En tout cas, ils vont en parler. Je pense qu'on va vite, très très vite submerger. On s'est dit, c'est typiquement les spectacles qu'on pourrait jouer 10 fois. Prendre le risque de les jouer 10 fois, donc payer 10 représentations, ce qui est quand même un gros coup, parce que on est presque sûr qu'une chose comme ça est tellement forte au niveau théâtral, au niveau voilà, que c'est des rendez-vous exceptionnels, et voilà, et bon, on en a fait 3, c'est déjà pas mal, donc il faut vraiment venir voir cette, comme une définition de Sylvain Maurice qui disait, c'est une sorte d'odyssée moderne où on raconte un mythe contemporain qui touche vraiment le fond de notre humanité, la vie, la mort, le deuil, la renaissance, tout ça. Enfin, waouh, c'est voilà, on est au cœur de nos vies même, donc c'est un chef-d'œuvre, comme je disais tout à l'heure.
Bien, il y a de poursuivre cette ode à la vie. Il y a il y a aussi l'Odyssée.
Voilà.
Deux spectacles de quelle compagnie ?
Alors c'est une très jeune compagnie, un jeune collectif qui s'appelle Compagnie à Tire-d'Aile. Donc l'Iliade et l'Odyssée, vous l'avez bien compris, c'est d'après Homère. Et c'est une jeune metteur en scène qui s'appelle Pauline Bayle qui a mis en scène ce collectif. Donc on a vu l'Iliade à Avignon. On a adoré, je vais expliquer pourquoi. Et l'Odyssée est une création, mais sur le même registre. Donc on a fait confiance à la compagnie. On invite la création sans l'avoir vue, hein, comme on le fait souvent dans cette saison, puisque notre rôle, c'est aussi d'aider les artistes avant que les projets naissent, pour que justement que ces projets puissent exister. Et comment essayer de vous dire, bon, Homère, je ne vais pas représenter Homère, l'Odyssée, l'Iliade, les gens connaissent tout ça, c'est ces grandes histoires du théâtre classique. Par contre, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que Pauline Bayle peut faire jouer les rôles d'Hector, Achille, par des femmes ou des hommes indifféremment, et qu'au bout d'un moment, on ne se pose plus du tout la question de savoir si c'est un homme ou une femme. Qu'est-ce que la bravoure, qu'est-ce que ça veut dire, la force, quand c'est une actrice, ou la bravoure, ou qu'est-ce que le féminin ou le masculin déclenche par rapport à un héros, un guerrier, etc. Finalement, on se rend vite compte que c'est la même chose, la force est la même, hein, chez un homme, une femme, en tous les cas, la force émotionnelle. Et ce qui nous a beaucoup plu dans cette mise en scène, en tous les cas, de l'Iliade, c'est que c'est une jeune compagnie, donc pas forcément beaucoup de moyens et beaucoup d'aide au départ, mais une formidable créativité pour raconter ces histoires qu'on connaît, qu'on a entendu parler, avec très peu de choses, très peu de moyens. Je vais vous donner juste un exemple, mais je ne vais pas en dire trop, parce que c'est à découvrir. Par exemple, la comédienne ou Hector, à un moment donné, qui va à la guerre. Donc, ils sont habillés comme vous et moi sur scène. Et à un moment donné, pour parler de la guerre, alors, le texte, c'est vraiment l'Iliade, etc. Enfin, le texte d'Homère, avec une adaptation. Et elle va à la guerre. Donc, il y a deux seaux d'eau. Donc, elle trempe ses avant-bras jusqu'au milieu du bras, du biceps, là, dans des seaux d'eau. Elle sort ses bras. Elle les remet dans deux autres seaux où il y a des paillettes d'or. Par exemple, des paillettes d'or, hein, toutes simples, et en fait qui vont coller évidemment avec l'eau, sur les bras mouillés, et elle s'en met sur le front ou sur le visage, et qui simule le fait de mettre une armure pour aller à la guerre. Et c'est que des petites choses comme ça de mise en scène extrêmement, c'est à la fois délicat, c'est hyper intelligent, ça se situe tout de suite. Je veux pas tout vous raconter, parce qu'il y en a plein d'autres comme ça, et on a été vraiment sous le charme de cette équipe qui nous raconte à sa façon l'Iliade et l'Odyssée, mais wow, quelle force aussi de ce jeune collectif qu'on va accompagner un peu, parce que Pauline Bell, on la reverra, on l'a vu dans une autre chose qu'elle a montée après, et qu'on recevra l'année suivante. Donc venez découvrir cette compagnie à Tire-d'Aile, qui a des choses à dire, et avec des acteurs et actrices formidables.
Et ce sera le 22 mars à 19h pour l'Iliade, et l'Odyssée, c'est 21.
Et le 23 mars.
À 19h au théâtre, côté cour.
Oui, et puis je pourrais juste rajouter aussi qu'une jeune équipe, dit des jeunes comédiens, et garçons ou filles, sont excellents. C'est un jeu sur scène, une force. Voilà, ça aussi, c'est le plaisir de voir des jeunes acteurs dans un tel niveau déjà, et de faire passer un tel texte, une espèce de chose assez forte. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas se planter quand on joue Homère, enfin l'Iliade ou Odyssée d'après Homère. Voilà, c'est des références que les gens connaissent. Donc la force doit être là, le côté épique doit être là, et tout est là, et c'est servi par de très très d'excellents jeunes comédiens.
Le spectacle suivant s'appelle Gus, Ça me fait penser à un certain chat dans Cendrillon, mais bon, bref.
Bah, ça vous fait passer un chat, et c'est pas si mal, parce que c'est justement ce Gus de 2 et avec Sébastien Barrier, c'est l'histoire d'une épopée féline, l'épopée d'un félin. Alors, Sébastien Barrier, les gens commencent à le repérer, il était venu dans le Tous dehors avec prise de parole, où il écrivait sur sa voiture, enfin bon, et que c'est le... On va dire, dans le théâtre public, c'est le grand bonimenteur. C'est quelqu'un qui est capable de digression, qui est capable de parler 7 heures comme il l'a fait quand on l'a reçu avec sa voix enfin qui nous buvons. Les gens s'en rappelleront. Il part dans des digressions. Il a une espèce de ciel étoilé, de constellation où il va piocher des trucs, il revient, il retombe toujours sur ses pattes. Et en parlant de pattes, Gus, c'est l'histoire assez étonnante. Alors, avec Sébastien, on ne sait jamais si c'est réel ou si c'est de la fiction. C'est un bonimenteur, donc hein, il nous enrobe, il nous entourloupe assez souvent, mais il a une façon de raconter absolument unique. Et là, le point de départ de cette histoire de Gus, c'est l'histoire d'un chat de son musicien, Nicolas Lafourest, qu'il a travaillé. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a joué aussi Chunky Charcoal au Théâtre du Rang, dans les allers-retours dont je parlais tout à l'heure. Donc les gens ont repéré Sébastien Barrier, c'est unique hein, dans le paysage de la création. Cette fois, il n'était pas tout seul, il était avec des copains, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'affectif et dans la fraternité, et qui ne jouait qu'avec des amis. Donc il y avait un graphiste qui écrivait sur une grande fresque, et puis ce musicien, Nicolas Lafourest, qui lui raconte l'histoire d'un chat, et il raconte que dans une poubelle d'un cinéma d'arrêt d'essai, alors là on lui dit ouais c'est ça, Nicolas Lafourest avait trouvé ce petit chat abandonné et que c'était l'anniversaire de sa copine, donc il lui ramène ce petit chat. Il se trouve que ce petit chat qu'il trouve dans la poubelle est absolument insupportable, sauf avec son maître. Mais il crache, il griffe, enfin il est insupportable avec tout le monde, tout son entourage, on peut pas l'approcher, etc. Et pourtant il reçoit beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et du coup, est-ce que la question que se pose Sébastien, est-ce que l'excès de tendresse, l'excès d'amour nuit à la santé finalement, hein, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qui se cache sous nos pires carapaces finalement, que ce soit chez les humains ou chez les animaux, il y a eu vraiment des traumatismes qui ressortent, etc. Alors comme ça paraît, c'est souvent drôle, hein. Il nous embarque dans des histoires pas possibles entre vraie réalité et fiction, évidemment. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas encore Sébastien Barrier et qui a lui-même un chat absolument inouï, et les gens qui nous écoutent sauront de quoi je parle, son oui-oui qu'il est cul sur scène, qui traîne de temps en temps son propre chat, est assez étonnant. Donc voilà, c'est un phénomène à rencontrer, c'est quelqu'un d'intense, qui aime beaucoup le rock aussi. Il dit d'ailleurs que Gus, c'est une création, hein, une sorte de contre-rock. Donc il voulait faire ça pour les enfants, puis on s'est vite aperçu que c'était pour les un peu plus grands, 12-13 ans plutôt. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Sébastien Barrier, Gus est un bon point de départ à notre avis. Ce sera joué le 26 et 27 mars à 17h pour cette épopée d'un félin pas comme les autres. Voilà, et lui il se pose des questions finalement, pourquoi ce chat est si méfiant, pourquoi est-ce qu'il est déprimé. Donc évidemment, en parlant des animaux, c'est un peu comme Jean de La Fontaine, hein, en parlant des animaux il parle des humains, donc on pourrait dire que Sébastien Barrier fait le Jean de La Fontaine à travers l'histoire d'un chat pour parler des sentiments humains, de l'amour, du rejet, de la déprime, des addictions éventuellement, enfin voilà. Donc c'est un malin, Sébastien Barrier, donc nous on aime bien les gens malins et qui nous racontent, qui savent, comme conteur inouï, autant performeur que bonimenteur, unique, hein, unique, unique, Sébastien Barrier est quelqu'un d'unique, donc voilà, à découvrir.
Le rendez-vous est pris aussi.
Oui, et c'est un côté court, donc évidemment pendant cette proximité dont a besoin Sébastien Barrier avec le public, donc ça va être un morceau de bravoure.
On passe à la convivialité, ce sera le 29 et 31 mars, côté court aussi, à la passerelle. C'est de la compagnie Chantal et Bernadette. Alors, ça parle de quoi ?
Ah oui, alors ça, c'est ça aussi, c'est un rendez-vous. Vous savez, il y a des spectacles qu'on a dans cette saison, on les aime tous, mais on a souvent envie de les revoir. Et celui-là, en particulier, la convivialité donc de la compagnie Chantal et Bernadette, qui doit peut-être être les prénoms des épouses des deux comédiens, qui ne sont pas des comédiens, mais des professeurs. Il y a un professeur de français et un professeur de théologie, ou professeur des religions, ils appellent ça en Belgique, c'est des Belges, et qui ont voulu faire un spectacle sur l'orthographe. C'est pour ça qu'on l'a mis question d'orthographe en faisant, il y avait une très très belle faute, exprès, parce que finalement il nous plonge ces deux personnes, Arnaud Oued et Jérôme Piron, donc nous plonge dans l'histoire de l'orthographe, comment s'écrivent les mots, pourquoi s'écrivent les mots, à partir des moines. de l'histoire des moines copistes, comment s'est fixé l'orthographe, est-ce que l'orthographe n'a pas été à un moment donné, puisqu'on le sait, hein, ça a été le dictionnaire par exemple de la langue française, ils sont belges, hein, donc ils sont francophones, mais ils parlent de la langue française évidemment, et comment l'orthographe s'est fixé, comment à partir de Richelieu, ou le grammaire de la langue française, on a voulu au début faire que la plèbe ne savait pas parler, puisqu'en fait on pouvait écrire comme on voulait la langue française, hein, jusqu'à Richelieu, et... comment, à un moment donné, c'était pour détacher une élite, des gens cultivés, etc. Et comment ça a déjà créé des scissions sociales aussi, quand même. Parce que vous savez, comme vous et moi, quand on reçoit une lettre et que toutes les deux lignes, il y a une faute d'orthographe, ça donne une image de la personne tout de suite. Oh là là, c'est quoi
On se dit, il n'est pas allé à l'école.
Il est nul, alors que ça n'a rien à voir. Il peut y avoir des problèmes de dyslexie, il peut y avoir des problèmes... Ça ne veut pas dire que quelqu'un est bête, il écrit mal. L'orthographe, c'est quelque chose qu'on apprend par cœur. Et ce qui est très intéressant dans ce spectacle, c'est qu'en fait, il n'y a aucune règle. C'est-à-dire qu'on doit apprendre par cœur les trucs, mais en fait, il n'y a eu aucune règle, il n'y a aucune logique. Par exemple, moi, je me rappelle un exemple. Par exemple, ils prennent plein d'exemples tout le temps. Il y a un grand écran avec des mots. Le spectacle commence par une dictée. Ils font faire une dictée au public. C'est vraiment très drôle. Et maintenant, il dit pourquoi alléger s'écrit avec deux L et alourdir avec un L, par exemple. Pourquoi gelée de groseille va pas prendre de S et confiture de groseille va prendre des S. Donc, des choses absurdes, et en fait c'est vraiment une plongée assez drôle, très érudite sur l'orthographe, et c'est un vrai régal, c'est un moment très particulier, encore une fois on peut pas dire que c'est un moment théâtral, mais c'est pas non plus une conférence, il y a un jeu de mise en scène, mais c'est un vrai régal, et je trouve que, alors ça peut se terminer par une conférence de quelqu'un justement qui a souffert de l'orthographe par exemple, ou un spécialiste de l'orthographe, ils amènent souvent une personne avec eux, c'est un parcours historico-sociologico politique à travers l'orthographe, et franchement c'est savoureux, on apprend plein de choses, c'est drôle, et on se rend compte de parfois l'absurdité des liaisons, même de la grammaire, qu'est-ce que l'ignorance finalement, c'est quoi, c'est des gens qui sont assez favorables au changement de à une nouvelle orthographe, bon, c'est tout ça, ils en parlent aussi, mais voilà, c'est malin et très ironique, et c'est surtout ça va s'adresser vraiment aux amoureux de la langue française, pour qui l'orthographe est quelque chose d'important, comme aussi les réfractaires à la langue française ou à l'orthographe, à la grammaire, parce que justement ils vont y trouver leur compte, et c'est magique finalement. Puis bon, l'histoire des mots, des lettres est quand même assez magique.
Ah, mais c'est un vrai casse-tête la langue française pour les étrangers, en tout cas. Il y a tellement de règles, d'exceptions, d'accords, de pas d'accords, etc. En tout cas, si vous voulez venir, n'oubliez pas votre stylo. Et votre petit cahier ?
Oui, enfin, ça, ils me le donneront, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que très très vite, ils plongent dans les absurdités de la langue française, qui ne répond parfois à aucune logique, ces absurdités deviennent des subtilités pour ceux qui savent maîtriser la langue française, et pour d'autres, restent complètement inconnues, parce que de toute façon, il n'y a pas de logique. Donc on pourrait écrire l'orthographe comme on voulait, c'est bien qu'à un moment donné, on a voulu instituer quand même une grammaire française, une orthographe française, etc. Ouais, c'est passionnant, savoureux, puis c'est drôle, vraiment, il y a des choses absurdes, tellement absurdes qu'on en rigole, c'est vraiment, vraiment étonnant. Donc, à voir.
Bien, le spectacle suivant s'intitule Arthur et Ibrahim, de la compagnie du Double. Alors, ça parle de quoi ?
Ah oui, alors qu'est-ce qu'on est content de s'être engagé sur cette création, donc de la compagnie du Double, de Amina Gina, qui était venue à la présentation de saison, les gens s'en rappelleront, pour parler de ce projet-là. On vient de recevoir Amina, c'est pour ça que je vous dis, on est tellement content parce qu'on vient de recevoir Amina Gina avec ses acteurs en résidence, une dizaine de jours, et on a vu une sortie de résidence, donc on va dire une première demi-heure d'un spectacle qui va faire une heure. Et on est sorti, mais tellement ravi de ce qu'on a vu. On s'est dit, mais ça va être un bonheur, ce spectacle. Alors, l'histoire, c'est quand même étonnante. Donc, c'est un texte qui a été écrit par Amina Gina, donc qui est l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle, et qui raconte l'histoire qui a un bel écho, qui a une chose très très forte en ce moment, d'Arthur et Ibrahim, deux petits garçons qui doivent avoir à peu près une dizaine d'années, peut-être un peu moins, 8 ou 9 ans, et qui sont les meilleurs copains du monde à la cour de récré, à l'école, Arthur et Ibrahim, voilà. Ils sont complices, ils sont partout, ils font tout ensemble, etc. Jusqu'à un moment, le père, qui est un Algérien, le père d'Ibrahim, qui est Algérien, qui commence à dire à son fils, qu'est-ce que tu fais à l'école, c'est qui tes copains, ça serait peut-être bien, tu sais, les Français nous aiment pas beaucoup, lui il comprend pas ce que ça veut dire français, lui il est français, voilà, il s'appelle Ibrahim, il est français, enfin, il vit dans le même monde que tous les autres enfants, mais son père met un peu l'accent sur le racisme, l'air de rien, ils ont été mal reçus, qu'on les aime pas, et que ça serait quand même bien qu'ils soient copains avec des gens qui s'appelleraient plus Mohamed, par exemple, etc. Et bon, Ibrahim, évidemment, comprend pas, et donc il va faire un peu la tête, il va faire semblant d'ignorer un petit peu Arthur, qui lui, alors, le comprend encore moins, parce que c'est son meilleur copain, et bon, finalement, il va lui expliquer, et ils vont décider qu'Arthur se convertisse en petit musulman. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être musulman? Donc il demande à sa mère, il demande à sa prof, etc. Donc c'est une espèce de truc d'histoire du racisme inversé. C'est d'abord une histoire d'amitié où le racisme, la couleur de peau, les cultures différentes ne rentrent pas en ligne de jeu, et encore moins chez les enfants. C'est vraiment des mondes construits par les adultes. Enfin, faut arrêter. Donc c'est une espèce de pied de nez au racisme ordinaire. C'est une espèce de pied de nez à la laïcité, à la culture et à la fraternité, à l'amitié entre deux gamins. Et c'est drôle. Le texte d'Amina Gina est très, très bien écrit. D'ailleurs, il l'a envoyé à Actes Sud et deux jours après, il avait des réponses. Il est publié chez Actes Sud, ce qui est une référence dans le monde de l'édition. Voilà, ça va être de ce qu'on a vu. En tous les cas, on est sûr qu'on a touché une petite perle. Et voilà, ça sera le 3, 4, 5 avril à 19h. C'est à voir en famille, évidemment, à partir de 9 ans. Ça sera en côté court. Venez en famille avec vos enfants pour voir ce spectacle, parce que c'est drôle et ça évoque plein de choses. Enfin, c'est un bijou, en tous les cas.
Nous passons aux malédictions.
Oui, avec un monsieur metteur en scène, auteur que les gens connaissent bien maintenant, qui s'appelle Nicolas Bonneau, qu'on reçoit depuis quelques années avec ses spectacles. Donc, le dernier étant Looking for Alceste. On a eu Ali, l'histoire de Mohamed Ali, le combat du siècle avec Foreman à Kinshasa en 74. Donc, Nicolas Bonneau est un auteur qui travaille sur des thèmes pendant assez longtemps. Et il écrit des textes qui mêlent réalité et fiction. Et là, il a essayé de... Ça serait une tournée en excentré, hein, donc de parler des malédictions, mais toutes les malédictions. Les choses, les croyances qu'il peut y avoir dans les campagnes, les choses des guérisseurs, enfin, tous les mauvais sorts, etc. Tout ce qui peut exister encore, ou en tout cas dans les croyances, dans les pratiques, pas toujours, mais pourquoi on clouait une chouette à une porte des maisons avant, ou les gousses d'ail, etc. Mais comment les guérisseurs, tous les rebouteux en tout genre, entre évidemment... Les usurpateurs et les gens qui ont peut-être des pouvoirs assez réels, enfin des choses, il se passe souvent des choses étranges. Donc voilà, c'est une plongée au cœur de ces choses qu'on ne connaît pas bien. Et comme le disait un guérisseur, j'aime bien cette phrase-là, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas certaines choses qu'elles n'existent pas. Donc voilà, il plonge là-dedans. Et Nicolas Bonneau, qui est auteur, qui souvent travaille tout seul avec des musiciens en direct, puisque sa compagne est aussi artiste, il s'appelle Fanny Tastic. Alors les gens s'en rappelleront, elle a une voix à la Tom Waits, c'est une formidable musicienne, chanteuse assez étonnante, de la génération de Thomas Fersen. D'ailleurs, elle avait été repérée pas mal à ce moment-là. Cette fois, Nicolas Bonneau, il s'est associé avec une Hélène Barrault, qui est une jeune marionnettiste, qui est une formidable, je sais pas comment, faiseuse de marionnettes, une manipulatrice de marionnettes, et qui va faire partie aussi du récit. Vous savez, c'est un peu un rapport aussi aux poupées, on met des aiguilles dedans pour jeter un mauvais sort, tout ça. Donc il y a une dimension un peu humaine et un peu extra-humaine, etc. Donc voilà, c'est une plongée qui peut être assez effrayante et en même temps qui peut être aussi comment dire ça, assez hypnotisante ou assez attirante, hein, on est quand même attiré par des phénomènes un peu bizarres. Donc voilà, et Nicolas Bonneau se propose de plonger, en tout cas nous propose de plonger avec lui dans un monde, le monde des superstitions, les mondes des traditions populaires, dans des territoires comme le nôtre. Il y a dû avoir ces choses-là, il y a des gens que ça va rentrer en écho avec pas mal de gens, et on avait fait d'ailleurs une sortie de résidence, on avait déjà vu les réactions du public qui, chaque fois des histoires comme ça, on a toujours des histoires à raconter par rapport à des superstitions, des croyants, des choses un peu étranges qui sont passées. Donc voilà, c'est une plongée effectivement dans un monde qui est assez fascinant et qui nous concerne tous, voilà, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas.
Bien sûr, il y a toujours des petites choses paranormales qui se passent ou qu'on nous raconte.
Oui,
donc,
voilà, c'est toujours intriguant. De toute façon, on aime bien ces histoires un peu intrigantes, des choses un peu atypiques, des choses qu'on n'explique pas complètement. Voilà, donc voilà, ça nous parle. Donc ça va être, c'est une création. Hein, donc nous on suit en tous les cas Nicolas Bonneau depuis un moment donné. Et sur scène, il sera pas sur scène cette fois. C'est vraiment Fanny, la musicienne, et Hélène Barrault, la manipulatrice, qui va être sur le plateau.
Et c'est de la compagnie, donc La Voltige, ce sera...
La Volige, pardon,
j'ai mal lu. Ce sera les 8, 10 avril, 12, 13 et 15 dans Aveyne, Talar, Chabot, Embrun et Chorges. Tous ces lieux, des excentrés. On passe à de la danse.
Oui, c'est un... Alors là, c'est pareil, on ne fait pas toujours de danse ces derniers temps, ou peut-être pas assez, mais c'est un peu en fonction de ce qu'on voit. Et puis, on trouve, en tous les cas, c'est notre vision, qu'on trouve moins de grands plateaux de danse intéressants, etc. Donc, on essaie de fouiller un petit peu ailleurs. On a remplacé un peu par des propositions de cirque qui allient souvent la danse aussi, en tous les cas, l'expression corporelle forte. Mais on tombe parfois sur des petits bijoux. Et ça, c'est un petit bijou suisse. Le chorégraphe s'appelle Pierre Ponvian, il est, je sais pas forcément quelqu'un de connu, et qui s'appelle la compagnie Parc, dirige la compagnie Parc, et c'est un duo totalement magnétique dans un spectacle qui s'appelle Motif, et qui raconte finalement une histoire d'amour entre un homme et une femme sur un plateau, avec une gestuelle, une danse absolument où les mains ne se lâchent pratiquement jamais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement à la fois très sensuel, très fluide, entre deux corps et deux danseurs époustouflants, qui créent à la fois une tension, à la fois une espèce de... il peut y avoir des séparations, il y a des fois des moments très sombres, des moments très lumineux, etc., qui racontent l'histoire finalement assez organique d'un couple. Donc une danse magnifique, et la force en plus de cette proposition, c'est que le public est tout autour, c'est en quadrifrontal, c'est un tapis blanc, etc., donc on est vraiment au cœur de ce duo et l'intensité de ce duo, et ça a été une vraie révélation pour nous de voir ce spectacle-là, et ça pose des questions: qu'est-ce qui motive le mouvement des corps vers l'autre, l'attraction, la répulsion, qui passe parfois par des sentiments, mais qui passe évidemment par la danse, par les corps. Voilà, c'est un souffle de 50 minutes époustouflant, encore une fois. Je le dis peut-être un peu trop, mais voilà, c'est des choses qu'on ne verra jamais à la télé, qu'il faut absolument voir sur un théâtre, parce que c'est ça la force de la création. Et voilà, on sort vraiment fasciné par ce qu'on vient de voir, et qu'on est dans une très grande proximité qui fait que ça rajoute encore à la force de ce duo, et qui provoque sûrement chez nous un écho ou des échos assez intenses sur ce qu'on peut éprouver, nous, pour le corps d'un autre, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais en tout cas, et qui déclenche parfois, où l'amour, les sentiments déclenchent une gestuelle très particulière, une alchimie particulière entre deux corps, et voilà, c'est un moment d'une finesse, d'une légèreté complètement dingue, donc voilà, vous avez d'une belle intensité.
Et c'est de la danse contemporaine. Et ça se passera les 17 et 18 avril au théâtre à 19h.
Et vous avez raison de dire que c'est de la danse contemporaine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui diront: ah, moi, la danse contemporaine, j'aime pas. Mais en fait, la danse contemporaine, c'est comme si vous me disiez: j'aime pas le pain. Mais le pain, il y a combien de pains différents? Il y a des pains aux noix, il y a la baguette, il y a le pain de seigle, il y a le pain au... Donc c'est la danse contemporaine, c'est ça, c'est tellement des mondes différents, d'une compagnie à une autre, d'un chorégraphe à un autre, qu'il faut jamais renoncer à la danse contemporaine. On peut pas dire: je n'aime pas la danse contemporaine. Il y a de la danse contemporaine qui va nous laisser complètement indifférents, qu'on ne va même pas aimer peut-être, mais par contre une autre danse contemporaine d'une autre compagnie, un autre chorégraphe, qui va nous fasciner, nous bouleverser, nous procurer une émotion extrêmement intense. Voilà, il faut continuer à avoir de la danse, et l'expression des corps est parfois aussi, voire plus forte que des mots, donc continuons à avoir de la danse contemporaine.
Bah, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Il y a tellement de styles différents dans le contemporain, on peut pas définir le contemporain avec un seul style. Donc venez voir ce spectacle. Celui d'après s'appelle Projet PDF, c'est le 21 avril, la passerelle à 20h30. Ça parle de quoi ?
Alors ça, c'est une création, donc c'est un projet sur lequel on s'est engagé sans l'avoir vu. On a vu un peu des extraits, on connaît bien les artistes qui nous l'ont proposé. Donc PDF, c'est comme portée de femme. Alors, je vais essayer d'expliquer. Donc c'est 17 femmes sur le plateau.
17 femmes,
c'est une sacrée brochette de jantes féminines qui sont toutes, issues du cirque, donc qui sont porteuses, voltigeuses, acrobates, contorsionnistes, et qui ont décidé de faire un spectacle
exclusivement féminin, et pour essayer de parler d'une autre manière du rapport au corps et du rapport à l'autre. On sait souvent que dans les portées, ce qu'on appelle les portées, vous savez, sur souvent l'image d'un porté, c'est un homme qui porte une voltigeuse, une femme qui est plus légère, etc. Et bien là, qu'est-ce que ça provoque, que ce soit des femmes qui soient à la fois porteuses, voltigeuses, contorsionnistes, etc. C'est des 17 personnalités, vraiment un monde féminin, 17 qui toutes qui sont à la fois les images de femmes ou très féminines ou au contraire très viriles ou très fortes ou aguicheuses ou romantiques. C'est toute une espèce de panel de portraits féminins qui s'associent pour ce projet PDF. Et, wow, on a vu des images, voilà, elles peuvent autant s'associer pour porter une bagnole à elles seules que parler d'amour, de sexe, de... Enfin, voilà, c'est fortement féminin, exclusivement féminin, et c'est vraiment d'un grand caractère. On l'a senti dès le départ quand elles sont venues nous parler de ce projet qui nous paraît essentiel, généreux, et qui est une autre façon de parler de la féminité, ou de la parité, ou du rôle des femmes. Et d'ailleurs, parallèlement à ce spectacle, on invite des metteurs en scène ou des circassiennes qui nous parlent de ce que c'est que la création féminine. Est-ce que c'est plus dur d'être une femme dans le monde des arts du spectacle vivant pour demander de l'argent, trouver des projets, etc. C'est quoi le rapport aux femmes, aux institutions? C'est assez intéressant. Donc, et je trouve que c'est une vraie question aujourd'hui dans nos sociétés de la vision ou de l'image qu'on a des femmes. On sait que c'est compliqué. On sait qu'il y a des associations qui se battent, même dans les choses beaucoup plus graves, évidemment, sur les femmes battues en France, qui sont dans le monde, qui sont quand même des endroits extrêmement délicats de nos sociétés. Et vive les femmes pour cette création collective qui va nous transporter ailleurs, dans des mondes à la fois fragiles, invincibles, d'une image de nymphe, d'une femme plutôt nymphe, mais aussi d'une rugbyman, une idéaliste ou une hystérique, enfin, tous les sentiments, une femme fatale et des mamans. Qu'est-ce que c'est être maman? Voilà, c'est ça va être grinçant, sensible, assez trash à mon avis, et aussi romantique. Donc, en tous les cas, elles sont toutes différentes. Ces femmes qui sont réunies pour ce projet PDF, mais elles sont toutes réunies pour une envie commune d'être ensemble et de parler des femmes. Donc, on attend avec impatience ce spectacle qui aura lieu le 21 avril à 20h30.
Et oui, on est toutes différentes, les femmes, et ce qui fait nos singularités, notre singularité. Et on peut même avoir en soi plusieurs facettes, hein. Alors, de la musique pour poursuivre cette saison.
Oui, un spectacle qui s'appelle Nola Black Soul, qui est à voir en famille. Encore une fois, nous, on aime bien les familles, on aime bien voir les salles avec des enfants, des parents. Et il a cette possibilité avec des tarifs abordables et puis des horaires aussi adaptés à 19h ou 18h, que les gens puissent venir en famille, même au milieu de semaine. Et là, c'est une plongée, un voyage conté et chanté qui s'appelle Nola Black Soul, qui nous entraîne sur... on va dire les chemins de la musique noire américaine dans le delta du Mississippi, donc entre le jazz, blues et gospel, qui nous parle aussi des croyances qu'il peut y avoir, puisque c'est l'histoire d'un personnage Nola, qui s'appelle Victor Bien-Aimé, qui est victime d'un sort qui lui est jeté et dont la tête va être transformée en tête de crocodile, qui sont dans les bayous et en Nouvelle-Orléans assez nombreux. Et c'est toute cette histoire de ce personnage-là, mais qui nous plonge évidemment sur la trace de ses ancêtres, sur tous les métissages musicaux qui se sont unis dans le delta du Mississippi entre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique et les Caraïbes. Donc il y a des voix, des claviers, des percussions, des trompettes, trombones, guimbardes, de la caisse claire, du banjo évidemment. Et il a reçu, c'est un spectacle qui a reçu le prix talent de l'ADAMI pour la musique jeune public. Donc un très beau rendez-vous, assez festif, et je pense que petits et grands vont se régaler dans ce beau voyage, ce beau conte chanté et joué, voilà, sur le mardi 15 mai à 19h. Ça dure à peu près, ce conte musical en pays cajun dure à peu près 50 minutes.
Et c'est la compagnie Tous Métis.
Tous Métis, oui, de Laurent Gachet, voilà. Et il y a le groupe qui s'appelle Zafa, qui est le groupe de musique qui accompagne le spectacle et le comédien.
Et on passe au point du jour, c'est de la compagnie presque siamoise.
Oui, qui sera donc le dernier rendez-vous de la saison avant le rendez-vous des Tous dehors enfin. Et alors, c'est une compagnie que c'est un peu lié aux Tous dehors enfin, d'ailleurs, puisque c'est une compagnie qu'on avait invitée il y a quelques années, qui s'appelle Les Presque Siamoises, de Flora Le Quémener et Sophie Olivon, à qui se rajoute pour cette proposition au point du jour Vincent Anoto, un comédien. On les avait invités dans le Tous dehors il y a 2 ou 3 ans maintenant, avec, comment ça s'appelait, De Contor, qui était un petit conte de 8 minutes, et Débauche, qui était joué à Charence. Ces deux femmes qui sont contorsionnistes, acrobates, et qui, sur des musiques de Bourville ou de Brel, faisaient raconter l'histoire de deux vieilles qui faisaient des figures acrobatiques assez incroyables. Et là, elles ont eu un projet qui nous a tout de suite embarqué, qui s'appelle donc Au Point du Jour, qui est un petit déjeuner acrobatique. C'est-à-dire qu'on va proposer aux gens, entre le samedi 19 et dimanche 20 mai, donc là, ça sera à 9h30 du matin et plutôt sur un espace extérieur, dans le cadre d'un curieux de nature. Donc, on va trouver un endroit qu'on n'a pas encore déterminé, au milieu d'un bois, d'une prairie, où les gens vont pouvoir venir déjeuner, petit déjeuner. Donc, il faut venir à jeun le plus possible, puisque un vrai petit déjeuner avec tartines,
des œufs, du bacon.
Non, vraiment un déjeuner, du thé, du café, vous est servi de manière pour 50 personnes qui sont réunies dans un espace assez circulaire. Franchement, commencer la journée par un spectacle de cette nature, ça met une patate, une banane. Donc on va le jouer 2 fois en extérieur et on va le jouer aussi en salle, sur le plateau, les mardis 22, 23 et 24, donc 3 jours, à 8h45, une fois que les mamans ont dépassé leurs enfants peut-être à l'école. Venir commencer la journée par un petit déjeuner acrobatique, ça l'est, mais c'est vraiment à la fois d'une douceur, c'est un réveil évidemment pas comme les autres. Les deux filles et l'acteur sont assez formidables. On mange bien en plus, tout est bio, et elles sont extrêmement douées puisque c'est des contorsionnistes et porteuses, donc qui seront d'ailleurs dans le projet PDF, les deux. C'est aussi deux personnes qui
donc elles viennent du cirque aussi.
Elles viennent du cirque, et donc voilà, c'est une belle respiration. Vous le savez, on aime bien les rendez-vous assez atypiques, et un spectacle de petit déjeuner acrobatique, ça nous a paru évidemment intéressant. On les avait reçus en résidence, puisqu'on est coproducteur sur ce spectacle, et on avait fait une première sortie sur le plateau avec quelques personnes publiques et l'équipe, et franchement, on était ravis, et ça rencontre beaucoup, beaucoup de succès. Donc pour ceux qui nous entendent, si vous n'avez jamais fait un petit déjeuner acrobatique, venez essayer. Alors je vous dis ça, et en même temps, je crois qu'on est quand même bien, bien plein, bien, bien avancé, il doit rester très peu de place, et c'est un spectacle typiquement pour des petites jauges, parce que évidemment, servir un petit déjeuner, c'est aussi une logistique. Donc,
j'imagine que pour 300 personnes, c'est compliqué.
Voilà, non, là, c'est pour 50 personnes à chaque fois. Bon, on le joue quand même 5 fois, ce qui n'est pas si mal. Voilà.
Et ainsi s'achève la programmation pour la saison 2017-2018. La suite, ce sera le festival Tous dehors enfin, les 1er, 2, 3 juin 2018, mais ça, on en parlera plus tard.
Oui, voilà. Alors, effectivement, la saison dans les murs est finie. Après, le festival, bon, on va peut-être pas en parler maintenant, puisque la programmation est en cours est en cours. Voilà, on n'a rien déterminé. On ne sait pas tout à fait financièrement de combien on disposera l'année prochaine non plus. On est entre une version idéale, évidemment, qu'on aimerait pouvoir présenter à tous les hauts alpins et gapensais, mais on a une version plus light qui dépendra un peu des moyens que nous accorderons nos partenaires. Voilà, mais ça va être encore un beau rendez-vous. Le seul souci maintenant sur Tous dehors, c'est comment on fait
pour la météo.
La météo, bien sûr, mais aussi comment on répond maintenant à la fréquentation en hausse, l'énorme succès de ce festival. Quel format on donne, quelle proposition on invite pour que les gens puissent voir un maximum de choses tout en n'ayant pas cette frustration de ne pas pouvoir voir parce qu'il y a trop de monde. Voilà, on est au cœur d'un questionnement quand même sur le festival. Donc voilà, nous, on espère que nos partenaires seront à la hauteur de l'enjeu, de l'ambition dont je vous ai souvent parlé, qui est d'installer de manière durable ce festival, de le faire monter en puissance, de faire de ce rendez-vous qui est déjà très repéré de manière exceptionnelle déjà en région et qui dépasse facilement les 25 000 spectateurs. On n'aurait pas eu la pluie que vous évoquiez tout à l'heure, eh ben on aurait sûrement été autour des 27-28 000 spectateurs, ce qui est phénoménal au bout de 5 ans. On a de l'or dans les mains, je l'ai souvent dit, essayons, voilà. Nous, on sait faire le métier d'inviter des compagnies, de choisir des spectacles. Maintenant, il y a des finances, il y a une partie logistique, il y a une complicité à avoir avec la ville pour libérer les espaces, pour nous mettre à disposition les services techniques, ce qui est fait. Il faut y encore faire des efforts et aller, à mon avis, plus au-delà encore, plus fortement, tous, Et on va y arriver, je suis assez optimiste. Et quand je dis que la saison est terminée là-dessus, c'est vraiment, c'est un peu le bouquet final. Et c'est aussi une façon, nous, d'aller nous adresser à des gens qui ne pousseraient pas forcément encore les portes du théâtre. Donc on encourage toujours à pousser les portes de ce théâtre qui est pour les gens et pour tous. Mais de mettre de la qualité, des spectacles de qualité dans la rue, c'est aussi permettre, et gratuit, c'est aussi permettre à des gens de toucher le cœur de la création d'aujourd'hui. Les arts de la rue, les arts dans l'espace public étant une des facettes assez en vue, forte, qui a été beaucoup appréciée dans le monde entier hein, d'ailleurs. Donc là, c'est hors les murs, on a fini notre saison dans les murs, mais il y a aussi toute l'action culturelle, tout ce qui tourne autour des spectacles, de la saison, les ateliers, les stages qu'on peut faire, les conférences, je vous parlais tout à l'heure de Vive les femmes, voilà, toute cette action culturelle, ces rendez-vous, les projets en hôpitaux, les projets dans les prisons. Donc ça, ce serait pas mal d'en parler, si vous le voulez. Et je vais demander à Sonia, qui est la directrice adjointe de cette scène nationale, puisse vous en parler. Elle en parle, elle les connaît jusqu'au bout des doigts, et c'est elle qui va vous en parler.